ToraBox.com. Pour la diffusion du judaïsme aux francophones, vous retransmet un enseignement de la rabbanite
Tzipora Azoulay.
Bonne écoute et bon limoud.
Bonjour à toutes les auditrices de ToraBox, j'espère que vous allez bien. Alors, voici la suite de notre série sur les brachot. Nous avons vu la dernière fois l'importance du chidouche, du renouveau, avec quelques exemples. Et oui, puisque ce sujet des brachot qu'on répète tous les jours, et d'ailleurs plusieurs fois par jour, n'est pas sans risque d'éteindre sur la flamme et la chaleur de la mitzvah. Et là, nous allons entrer maintenant un peu plus profondément dans les différentes sortes de brachot. N'oublions pas déjà que les brachot, de toutes sortes, sont prononcés avec l'organe de la bouche. Ce plus que nous avons qui nous différencie des animaux. Donc la parole. D'ailleurs, il suffit de regarder un fait intéressant. Quand un couple passe sous la choupa, donc en fait, ils rentrent tous les deux, entre guillemets, comme des étrangers, même s'ils sont déjà fiancés. Et après les brachot, ils en sortent mariés, main dans la main. Donc regardez la puissance des brachot. Et encore à signaler que ce sont ces brachot qui vont donner, le début, qui vont faire entrer ce couple dans le mariage avec la joie de toutes ces sheva brachot qu'on ne peut pas ici détailler, mais qui sont magnifiques. Donc là, on va voir un petit point intéressant que va développer le Rav Yitzhak Shurun de Marseille. Vraiment très intéressant. On va voir les différentes sortes de brachot et un petit peu comment les comprendre. Et surtout, un point intéressant, c'est qu'il va nous lier le bonheur, qui est aussi un sujet à lui tout seul. Le bonheur, on va voir un lien entre le bonheur et les brachot. Alors, effectivement, on va se poser la question de quelle manière l'être humain pourrait se rendre conscient du bonheur. De quelle manière il peut se laisser infiltrer et pénétrer du savoir que, contrairement à ce que son observation première lui annonce, il ne jouit non pas seulement des conditions de bonheur, mais même d'une expérience émotionnelle qui est véritablement de bonheur. Alors, dit le Rav Yitzhak Shurun, il nous semble qu'il y a un nombre de clés pour déverrouiller l'accès au bonheur. Et une des clés se trouve justement dans la formulation quotidienne des brachot. Alors, nos chachamim ont rendu obligatoire de prononcer tous les jours un nombre de 100 brachot, on va revenir à ces 100 brachot. Et ils disent que ça relève d'un comportement de crainte d'Hachem. Le fait de reconnaître Hachem comme source de tous les bienfaits implique la reconnaissance de la fragilité de l'être humain et surtout sa dépendance à Hachem. Alors, maintenant on va voir qu'il se trouve dans cette consigne un élément psychologique très intéressant et très important. Alors, c'est justement qu'une fonction secondaire de la formulation de la bracha se trouve dans le fait que la bracha rend l'homme conscient du plaisir qu'il est sur le point de se procurer. Rappelez-vous, on avait dit dans l'autre cours que une bracha qui ne procure pas un aliment ou une boisson qui ne procure pas de plaisir, mais qu'on prend parce qu'on est obligé pour avaler un médicament, par exemple, on ne fera pas la bracha. Donc, l'aliment va nous procurer un plaisir. Et l'homme vit en général tellement mécaniquement absorbé par ses pensées, ses désirs, ses devoirs, que les moments de jouissance passent presque inaperçus. Alors dans ces conditions, la bracha constitue un temps de réflexion, un intervalle pour la prise de conscience du plaisir qu'il est sur le point de se procurer. D'ailleurs, on dit bien que quand on fait une bracha, c'est bien de la... on verra ça un peu plus tard dans un autre cours, de prononcer bien les brachot et même de séparer la première partie Baruch Ata Hashem, un petit arrêt, et le Kodesh Melech Olam, et ensuite le reste, ça fait prendre conscience. Donc la bracha n'est pas juste une autorisation pour le plaisir, elle est avant tout génératrice de la conscience de ce plaisir. Extraordinaire. Alors ça c'est vrai pour toutes les brachot de jouissance qui sont appelées Birkot Aneinim. Alors, essayez de compter le nombre de fois qu'on prend une consommation quelconque dans la journée, le nombre d'instants de plaisir qu'on éprouve et le nombre de brachot nécessaires alors pour se laisser infiltrer par le plaisir que la journée nous offre. Donc, dans ce petit espace de temps laissé avant d'accéder à la joie, on s'oblige à se laisser pénétrer par cette joie et ainsi on empêche le plaisir de se volatiliser sans conscience. C'est pourquoi même avant de faire une bracha, c'est bien de réfléchir à la bracha elle-même pour plus se pénétrer justement de cette conscience. Mais finalement, ce n'est pas seulement les brachot de jouissance, hein, Birkat Hanehanim, ce n'est pas seulement pour cela que c'est vrai, mais ça s'applique aussi pour la deuxième catégorie des brachot qui sont les brachot de louange, Birkat Hashevach. Ainsi, par exemple, le Birkat Hamazon, après les repas, c'est non seulement un remerciement, mais une prise de conscience du bonheur qu'on vient d'acquérir. Tout comme, par exemple, la bracha après être sorti des toilettes, où le corps a été soulagé et où on se trouve apaisé. Donc, une multitude de brachot sont de cet ordre, notamment celle du lever du matin, le chant du coq, le retour du monde ténèbres, les différentes étapes de l'habillage, de se chausser, de toutes les nécessités premières. Donc chaque bracha est un rappel vraiment qu'on vit dans plein de petits instants comme ça, de petites jouissances tout au long de la journée et de la vie. Donc appartiennent aussi à cette catégorie des brachot qui sont moins fréquentes comme la lumière, la bracha sur la lumière de la lune, du cycle du soleil, celle du mariage, de la Brit Mila, ou encore la bracha de Shehriyanu, hein, qui est prononcée lors des chagim. Et pour certaines circulations, certaines occasions particulières. Mais la bracha qui est un petit peu difficile, hein, un petit passage un petit peu difficile, c'est ces les brachot qui sont sur la souffrance. Alors il s'agit de cette bracha où, lors d'un dessin d'un proche, le Lénon, où on dit Baruch Dayan Haemet, par laquelle on rend hommage à Hachem, en le qualifiant de Dayan Haemet, donc de juge véridique. Et là, il y a une question très pertinente et très difficile. Où se trouve ici l'élément de joie qui est propre à toutes les brachot? On voit vraiment pas comment on peut parler de joie en des conditions pareilles. On a l'histoire, une anecdote poignante d'un rave qui était toujours à l'heure dans toutes les circonstances où il allait, mariage et autres. Et malheureusement, à l'enterrement d'un de ses propres enfants, Noalénou, il est venu avec du retard. On l'a interrogé sur ce retard. Et on sait que nos Chachamim disent qu'il faut bénir Hachem, Meshaprim à la Tov, Kachmvachim à la Ra, de la même manière sur le bien comme sur le mal. Donc ça veut dire être aussi dans un état d'âme, entre guillemets, bon, de joie, on va dire, d'acceptation. Alors il explique, eh ben, il m'a fallu du temps pour faire parvenir dans mon cœur une joie malgré tout. Alors, c'est vrai qu'il faut accepter sans difficulté les bienfaits d'Hachem comme la difficulté, bien sûr, dont on se serait bien passé, mais ça reste quand même que c'est très difficile à comprendre. Comment on peut avoir une joie quand on est durement éprouvé? Alors on explique comme ça, le Rav Shon explique, s'il n'y avait pas de tristesse dans le monde, est-ce que la joie aurait pu avoir une signification? En fait, on est affecté par la disparition d'une personne qui est chère, proportionnellement à la joie que l'être nous a procurée. Donc ces doléances éprouvées sont avant tout la confirmation et la signature de la joie qu'on a vécue. Et c'est justement à travers la souffrance qu'on est conscient de la joie et de la bracha que cette personne a constituée dans notre vie. Donc en quelque sorte, c'est la douleur, c'est une mise en relief du bonheur vécu. C'est pas du tout évident. Vous voyez, par exemple, dans la lettre du Merci, on nous dit aussi que on est possible de voir la lumière que parce qu'on est passé effectivement dans l'obscurité. Mais effectivement, ce n'est pas des choses faciles. En parenthèse, si vous connaissez Myriam Adam, qui a écrit plusieurs livres, psychologue américaine, elle dit quand même, parce qu'on est bien sûr des êtres humains, et que c'est tout à fait normal après une souffrance Eh bien, c'est bien pour ça qu'il y a des 7 jours, il y a des périodes, 7 jours, 30 jours, un an, on a des moments pour pleurer, pour exprimer la douleur, et le corps a besoin de le faire, c'est normal, mais que simplement, il faut savoir qu'à un moment, il faut reprendre la vie de tous les jours. Alors ensuite, on passe à Birkat HaMitzvot. Birkat HaMitzvot, c'est la troisième et dernière catégorie de brachot. C'est les brachot qui sont prononcés lors de l'accomplissement d'obligations comme Netilat Yadayim, la posée de tefillin pour les hommes, la lecture de la Megillah, sonnerie des chauffards. Et finalement, qu'est-ce qu'on serait sans ces obligations? Que signifierait être juif sans ces multiples mitzvot qui donnent tout le sens à la qualification du terme juif? Donc toute l'identité du judaïsme provient de ce caractère distinct qu'elle confère à travers les actes concrets, sans quoi on serait un peuple comme un autre. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident. Il faut un rappel constant qui s'effectue à travers ces brachot pour rester conscient qu'être juif, c'est avant tout un privilège et donc une source de joie. Alors je reviens à ces 100 brachot, justement. D'ailleurs, on sait qu'à l'époque David HaMelech, il y avait une épidémie, et que donc il avait institué ses 100 brachot et qu'elles se sont arrêtées. Mais il y a plus profond que ça pour expliquer ces 100 brachot. Ces 100 brachot sont le fondement vérité de la kdusha du peuple juif. Comme c'est écrit dans la Torah, 100 socles pour les 100 kikars, un kikar par socle. Et le Baal HaTorim explique, c'est à partir de ce verset qu'on a institué de dire les 100 brachot par jour. Ces propos qui sont difficiles à comprendre sont expliqués par justement le Chidush HaArim. Et il explique que ces 100 socles d'argent, Mea Adanim, qui se trouvaient dans le Mishkan, et 100 brachot par jour doivent être prononcés par chaque juif. Alors, comment on fait le lien? En fait, même que les 100 socles sur lesquels on emboîtait les poutres étaient les fondations du sanctuaire, les brachot sont justement les fondations de la kedusha de chaque juif. Le mot socle se dit adanim, Eden en français, en singulier, et provient du mot adnout qui veut dire maître. Et en récitant une bracha, l'homme témoigne qu'Hachem est le maître de la création. Et les 100 brachot représentent donc les 100 socles du sanctuaire de chaque juif intérieur. Magnifique. Donc en fait, pour la construction, pour se construire de manière solide, il est nécessaire pour un juif d'utiliser, entre guillemets, ses 100 brachot, ses brachot. Et c'est à travers celle-ci qu'il crée son lien avec Hachem. Et si quotidiennement, malheureusement, on est pris par les activités, le travail, le souci, le train-train, finalement, les brachot sont le moyen unique pour se reconnecter avec Hachem. Une petite histoire sur ces 100 brachot qui est racontée par le Rav Shvadron. C'est le Rav de Brisk qui a passé un Shabbat chez un Rav qui s'appelait Rav Wolf Rosengarten lors d'un séjour en Suisse. Et l'après-midi, quand ils étaient à table, donc le Rav a demandé une pomme et une banane. Le Rav Wolf, tout heureux de le servir, s'empresse de lui apporter. Il est un peu étonné. Et quand il revient avec les fruits, le Rav de Brisk et tous ceux qui étaient présents continuent à discuter. Quand vient l'heure de Mincha, les fruits étaient encore sur la table. Ils sont tous allés à la choule, prier Mincha, ils sont revenus chez le Rav Wolf. Et le Rav de Brisk ne mangeait toujours pas les fruits. Rav Wolf lui a demandé s'il voulait la pomme ou la banane. Alors Rav répond, non, elles ne seront pas nécessaires. Alors il est surpris. Alors Rav ajoute, chaque jour un juif doit réciter 100 brachot. Aujourd'hui, je pensais qu'il m'en manquait deux. Alors, j'ai demandé les deux fruits. Mais à la Shula Mincha, j'ai eu une alia, un appel à la Torah, et j'ai récité deux brachot. Donc, une avant, une après la lecture. Et ça complétait le nombre de requis. Donc, c'est quelqu'un, on le sait que Shabbat, il y a un petit souci parce que les Amidot ne comportent que 7 brachot et pas 18. Et que donc, on l'ajoute par d'autres brachot pour pouvoir arriver à ces 100 brachot. Voilà. Merci pour ce petit cours. Et Bezrat Hashem, je serais ravie de vous revoir. J'aurais bien aimé qu'on puisse se voir. Mais en tout cas, passez un autre petit cours pour la suite des brachot. À très bientôt.
Le cours est terminé. Nous espérons que le cours a été apprécié. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques. Retrouvez également sur le site ToraBox, www.torah-box.com, trois enseignements de judaïsme par des rabbanim différents sur d'autres sujets variés et sous toutes les formes, audio, vidéo ou sous forme d'articles. À bientôt.